Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Nous pourrions partir à la recherche de champignons avec ce professeur de mycologie de la faculté de pharmacie de Toulouse, mais non. Il a décidé de nous emmener à la recherche de l'or de Toulouse. Attention, danger, cet or est connu pour être maudit, une vraie amanite tumouche. En conséquence, ce roman commence par la découverte d'un squelette. C'est là une véritable enquête à laquelle nous convie Louis Chavant, recherche complexe dans le temps plus que dans l'espace, car si elle nous conduit jusqu'au Japon, c'est surtout à Toulouse et dans la région Midi-Pyrénées que se situe l'essentiel de ses recherches. « Jeu de mort » est le titre de ce roman édité par les éditions du Net. Louis Chavant, bonjour.
Bonjour.
Alors, que de cordes à votre arc. Vraiment, je vais, pour utiliser un terme que vous utilisez dans votre ouvrage, je suis espantée. Parce que les champignons ne vous suffisaient pas, vous vous êtes adonné à la peinture et puis à l'écriture. Bon, oui, qu'est-ce que ça vous apporte d'autre, l'écriture, la peinture?
Alors, la peinture, c'était plutôt une vocation, une espèce de don que je n'ai pas développé parce que je fais partie d'une génération et d'une famille où artiste, ce n'est pas un métier, ce n'est pas sérieux, il faut faire des études, il faut passer le bac, il faut aller à la faculté, bon, il faut avoir un vrai métier. Mmh. Donc, j'ai fait plaisir à mes parents.
Voilà.
J'ai pas fait de peinture, j'ai fait des études supérieures, et puis voilà.
Bon, mais maintenant, ça y est, la boucle est bouclée, puisque c'est formidable d'avoir une seconde vie.
Oui, voilà, c'est ça, j'ai d'abord gagné mon pain, et puis maintenant, depuis quelques années, je gagne ma vie.
Oui, voilà. Ah oui, la formule est belle, mais vous aimiez quand même certainement la lecture et certainement l'histoire.
Oui, la lecture parce que, alors je ne suis pas du tout issu d'une famille d'intellectuels, mais comme c'est souvent le cas, mon père avait une bibliothèque relativement importante et je passais, dès l'âge de 14 ans, je passais mon temps à prendre des livres au hasard et je lisais beaucoup, ouais, c'est vrai.
D'accord. Alors, quel a été le point de départ de votre récit? Qu'est-ce qui a suscité ce récit?
Alors, ce qui a suscité ce récit, c'est un fait réel. Lorsqu'on a effectué des travaux dans la cave de la maison dans les années 90... De ma maison, rue des Potiers, on a trouvé effectivement des restes de squelettes humains. Et partant de là, j'ai voulu savoir à quoi ça pouvait bien correspondre. Voilà, alors j'ai rajouté une pure fiction qui avait des bijoux à côté de ses ossements, mais ce qui est faux bien sûr, mais ça c'est le roman. Par contre, la réalité, le départ, c'est effectivement la découverte de ces ossements.
Vous voyez, vous anticipez une de mes questions, parce qu'on a tendance, je disais, à penser qu'il y a quand même, que tout n'a pas été inventé. Bien sûr, il y a déjà les faits historiques, on en parlera, hein, dont vous parlez, mais il y a même des pans d'autobiographie. Ben voilà, on y est, maison.
Tout à fait, oui. La maison, c'est un fait réel. Je suis parti de là, bon, et j'ai mené toute une enquête. Je suppose que je ne suis pas un grand spécialiste, mais tous les romans, ils partent de faits concrets qui sont romancés, évidemment. Hein. J'écris pas un livre d'histoire, ni un essai, c'est un roman, quoi. Et donc, je me suis inspiré de ça.
Et il y a autre chose aussi qui n'est pas totalement autobiographique, parce qu'il se trouve que Félix, votre personnage principal, celui qui mène l'enquête, est professeur de mycologie. Il me semble quand même que ça se rapproche de vous.
Voilà, oui, c'est vrai.
Et d'ailleurs, vous allez me faire une remontrance.
Oui, laquelle?
Eh bien, je me suis trompée, l'amanite.
Ah oui, voilà. Souvent, on cite comme champignon toxique l'amanite tumouche, que vous avez cité au départ de l'interview. Alors, c'est un champignon toxique, mais qui n'est pas mortel. Et le vrai champignon, enfin, le champignon le plus dangereux, c'est l'amanite phalloïde.
Voilà. Alors, Félix, donc, professeur de mycologie à l'université, comme vous, mais il n'est pas... C'est un chercheur, évidemment, un chercheur et qui connaît du monde.
Oui, si vous voulez, bon, c'est...
C'est un Toulousain installé dans sa ville.
Voilà, oui, donc c'était plus facile de faire vivre Félix à partir de mes propres expériences. Et voilà, et donc ce Félix, il n'a pas révolutionné la science, mais bon, quand même, il y a des petites...
Il l'a fait progresser.
Il l'a fait progresser, voilà.
Alors, il aime les jeux de mots aussi.
Oui, voilà. Et d'ailleurs, l'autre fait, puisque vous me demandez à partir de quoi ce roman a été bâti, je me suis amusé, avant d'écrire ce roman, j'avais une petite manie, c'était tous les jours, je regarde les avis de décès, il vaut mieux être informé des gens quand on leur demande des nouvelles, il vaut mieux savoir avant qu'ils n'existent plus, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc moi, j'ai pris cette habitude-là, et puis un jour, je me suis amusé, je trouvais qu'il y avait des noms marrants, et donc je faisais des jeux de mots. C'était une façon de conjurer la mort, peut-être, je ne sais pas.
Je dois vous avouer, Louis Chavon, que j'ai fait la même chose que vous.
Ah bon ?
Il faudra qu'on mette en commun nos trouvailles. Voilà. Alors, je vous cite, si vous permettez, « Madame Louise Journet n'est plus que nuit ».
Voilà, par exemple.
C'est poétique aussi, ouais. Hein. Ou bien... Madame Claude Atlan, Atlantique, tac, tic, tac, à perpétuité.
Voilà.
Ou encore, Monsieur Onésime Rigoulet, faut rigoler, comme dit la chanson. Voilà. Donc, c'est parti. D'où le titre de votre ouvrage.
D'où le titre, et parce qu'en plus, chaque fois, on ne va pas rencontrer dans le détail le roman, mais il y a des choses qui sont encore vraies. J'ai pu trouver des informations, des avis de décès qui m'ont donné des pistes. Et par exemple, cette personne qui serait une parente du cadavre identifié dans la cave, je l'ai trouvé par hasard dans un avis de décès qui m'a amené au village de Saint-Rome, par
D'accord.
exemple.
D'accord. Alors, ne brûlons pas les étapes, parce que, je dirais, mais je ne fais que le rappeler, donc tout se passe essentiellement dans un périmètre très étroit.
Oui, on peut le dire comme ça.
La majorité de l'action.
Cette partie-là, oui. Oui,
oui, cette partie-là, c'est-à-dire le Grand Rond, la partie vers le canal, la rue des Potiers.
Ouais.
C'était pas le centre, puisqu'on sort déjà de
comment, du centre historique, oui, on est à voilà. l'intérieur des remparts, à l'extérieur,
des
remparts romains.
Voilà,
oui, tout
exactement.
À fait.
Et donc, et comme vous l'avez si bien dit, comme dans votre maison, dans votre vie, ça commence par une sinistre découverte. Et vous avez plusieurs hypothèses, parce que ces ouvriers ont trouvé ce squelette, ils sont au 100 coups, il y a quelques menus objets en or, et tout ça vous met la puce à l'oreille, et vous avez des hypothèses.
Oui, alors il y a plusieurs hypothèses, parce que c'est un quartier, et on retrouvera dans la deuxième partie du roman, ce fameux château de la Gestapo au bout des allées Frédéric Mistral. Mais le quartier, tout ce quartier, a été pas mal investi à la fin, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par des associations collaboratrices. Il y a beaucoup de maisons qui ont été occupées.
Mais il n'empêche quand même que la présence de la Gestapo pourrait expliquer ce corps, ce squelette
voilà.
qui a été identifié, mais...
On pourrait penser, c'est
pourrait
une hypothèse,
penser.
Qu'il y a eu un règlement de compte et qu'il y a eu un cadavre qui a été
voilà.
planqué dans
bon,
le sol.
On va pas. Voir que tout ça, petit à petit, va se décanter. L'autre hypothèse qui était possible aussi, c'était un vestige d'un cimetière ancien. Il y en avait,
hein.
Il y en avait du côté de l'église de la...
On n'est pas très loin de la cathédrale Saint-Étienne, à vol d'oiseau.
Exactement.
Il est possible, c'est des hypothèses qui sont souvent faites et qui expliquent qu'il y avait des cimetières. Bon,
il y avait un cimetière du côté de l'immeuble où se trouve, à Toulouse, donc, nous sommes à Toulouse, on n'a pas dit, un immeuble où se trouve la sécurité sociale. Il y avait un cimetière par là également.
Ouais, c'est possible, oui, tout à fait.
Alors, il y avait également une autre hypothèse, c'est qu'on a toujours parlé, les historiens ont toujours parlé, de l'or de Toulouse qui a suscité bien des convoitises. Voilà. Et donc certainement bien de crimes.
Voilà. Donc pour un roman, c'est bien quand il faut qu'il y ait des morts, un roman policier, mais bon, la chasse au trésor, quoi, le côté mystérieux d'une richesse accumulée, convoitée, donc, et qui peut être à l'origine d'un assassinat crapuleux, voilà quoi.
Voilà.
Donc,
Alors, peut-être qu'on pourrait lire un extrait, justement, qui concerne l'or de Toulouse. Parce qu'il y a eu des tas d'hypothèses. Évidemment, on a parlé de ces vols commis à Delphes.
Voilà. Oui, alors, initialement, c'est l'or des Tectosages, mais le trésor s'est enrichi au cours de l'histoire de Toulouse, parce que en plus de l'or des Tectosages, et je ne reviens pas sur l'histoire du consul Sépion, il y a les Visigoths, hein, qui ont élu Toulouse comme capitale de leur empire, et qui ont, eux aussi, accumulé beaucoup d'or, qui provenait certainement de l'or des Tectosages, mais en plus, ils en ont rajouté.
Oui. Oui, alors, il y avait de l'or peut-être volé, mais moi, ce que j'ai découvert, c'est que finalement, il y avait autour de Tolosa, enfin, qui s'est toujours appelé comme ça d'ailleurs, il y avait des gisements d'or.
Alors, oui, il y avait des gisements d'or, et puis il y avait surtout le fait que c'est de la pratique des Tectosages qui accumulaient de l'or pour honorer leurs dieux dans les endroits marécageux, hein, autour de Toulouse. Bon, là, je ne suis pas un très grand spécialiste, mais cet or qui était fabriqué et utilisé à des fins, des pratiques religieuses, donc était stocké, entre guillemets, tout autour de Toulouse. Hein, voilà. En plus la région Midi-Pyrénées, il y a eu une très belle exposition il y a 10, 15 ans, 20 ans, au musée archéologique Saint-Raymond, qui explique tout ça.
Alors, c'est là où nous allons parler de la reine Pédoc.
Voilà, la reine Pédoc, d'accord.
Alors Louis, je pense qu'il vaudrait mieux commencer à la fin, page 42, parce que ça tourne tellement vite. La reine Pédoc, de son vrai nom, Ranichild.
Voilà, voilà. Alors, extrait. Donc, la reine Pédoc, de son vrai nom, Ranichild, était une belle pucelle de 16 ans lorsqu'elle épousa Théodoric II, son aîné de 4 ans, qui fut, comme tu le sais, le plus puissant et brillant roi de cette dynastie. Je l'ignorais totalement. Bref, au début de la réunion, tout n'allait pas pour le mieux. Mais grâce à ses connaissances et à sa parfaite maîtrise du latin qu'elle avait étudié avec les évêques protecteurs du monarque, elle trouva le remède à leurs problèmes dans le livre de Dioscoride. Un peu plus loin, et pour y remédier, elle emprunta à Dioscoride une recette à base de menthe afin d'une part, d'éloigner la vermine des habits et de la couche de son royal époux, et d'autre part, lui redonner le goût de faire des enfants. Et ça a marché parfaitement. Et quel est le rapport avec les oies ? Dit-il tout en regardant les doigts écartés de sa main droite. Puis comme s'il avait voulu corriger une erreur d'interprétation, donna un léger coup de talon sur le plancher en refermant sa main avant de reprendre la question. Le rapport avec le pied-doigt. Figure-toi que la consommation de ces herbes était de plus en plus importante. La jeune reine dut envisager leur culture de façon intensive. Elle a donc fait aménager une ferme sur la rive gauche de la Garonne en face de leur palais, située sur la rive droite. Un lieu approprié, relativement humide et idéal pour cette activité et qui est connu aujourd'hui sous le nom de château Peyrolade. « Ah oui, à Saint-Cyprien, dit Félix. Quel est le meilleur auxiliaire pour cette activité agricole ?» Félix leva le nez au plafond pour chercher une réponse à cette interrogation qui ne lui était pas directement posée et se contenta de dire « Les oies, elles se délectent de toutes les herbes sauf des menthes. Elles bouffent tout sauf les menthes, pas besoin de Roundup. » Ça, c'est écolo, mais je ne vois toujours pas le rapport avec les pieds et les oies. C'est très simple. Entre les dérives était aménagé un genre de ponton qui reliait la ferme et le palais, sur laquelle la jeune reine avait l'habitude de se promener avec quelques-unes de ses oies. une façon de les récompenser et de jouer avec elles, disait-on, en imitant leur démarche maladroite. En même temps, il se leva et fit le tour de sa chaise comme s'il souhaitait mimer la scène. Il avait enlevé ses mocassins pour réaliser sa démonstration. L'animation spontanée de son collègue amusa Félix, qui prolongea le propos par cette question. « D'où le surnom Pédoc ?»« C'est mon hypothèse, mais ce n'est pas fini. »« Oui, j'espère, tu m'as encore rien dit au sujet de l'or. » Cette ferme était aménagée sur un lieu très humide, voire marécageux, et donc propice à la dispersion par les textossages de différents objets en or pour honorer leur dieu. « Bingo ! Ranichild a trouvé le trésor, » dit Félix dans un élan enthousiaste. « Peut-être pas la totalité, mais une partie importante, certainement. Ainsi, grâce à des herbes, elle a rendu son royal époux amoureux et riche. Un véritable conte de fées. Ils eurent beaucoup d'enfants, furent heureux et moururent très vieux. » Pas exactement. La fin de Ranichild, qui a découvert l'or, et celle de son époux, fut tout à fait conforme à la légende, celle selon laquelle cet or porterait malheur.
Voilà, et oui, et c'est comme ça que les Toulousains ont une expression, du moins les vieux Toulousains, dit, il a l'or de Toulouse, c'est-à-dire un bien mal acquis.
Voilà.
Hein? Et ce bien mal acquis ne profite jamais, puisque on disait, et on dit peut-être encore, je ne sais pas, que l'or de Toulouse, si on met la main dessus, porte malheur. Alors, voilà Félix, donc, qui se lance dans une aventure inextricable, parce que c'est comme une pelote de laine qui n'en finit pas, et ça devient même un écheveau complètement emmêlé. Même on rit parce qu'il a affaire à l'administration française. Et je me suis dit, c'est bien d'actualité.
Oui, tout à fait, oui. On ne va pas développer.
Mais on ne va pas développer. On ne va pas développer parce qu'il est renvoyé d'un service à un autre, etc., etc. Mais une piste, parce que donc il a vu qu'il y avait un décès à Saint-Rome, je crois.
Oui.
Voilà. Alors, c'est un village, j'ai fait la curieuse, je suis allée sur Internet pour tout vous dire, et j'ai vu que c'était un village ravissant.
Très beau, ouais. Il y a de très belles maisons, il y a un beau château.
Et il y a un beau château. Alors, qui y a-t-il dans ce village ?
Eh bien, il reste, c'est le village dans lequel a certainement vécu la personne dont Félix a découvert
le corps,
ossements dans le sol de sa cave, et il y a les descendants, les neveux et surtout la nièce, petite nièce de ce personnage,
qui adorable vieille dame qui s'appelle Louise.
Voilà.
Et elle et sa demeure vont quand même donner quelques pistes à Félix.
Oui, parce que Félix est étrangement surpris, parce que le propriétaire de cette maison, dont celui qui a été propriétaire, c'est pas le personnage dont on a trouvé les ossements, mais c'est quelqu'un qui l'a protégé, qui était un palefrenier. Et donc, c'est assez intriguant pour Félix de voir d'abord que ce palefrenier, à un moment donné, a été propriétaire de sa maison rue des Potiers, qui est un petit hôtel particulier. Donc, comment un palefrenier peut avoir posséder un immeuble pareil ? Et d'autre part, également, il va se rendre compte qu'à Saint-Rome, ce palefrenier était propriétaire de cette maison où vit Louise actuellement, qui est une des plus belles maisons en dehors du château.
Voilà.
Et en fait, il apprendra que le fameux palefrenier n'était pas palefrenier, mais régisseur du château,
voilà,
qui était la plus grande propriété de la région à l'époque.
On va en reparler après avoir écouté une musique que vous nous avez proposée de Sir Edgar, intitulée Cocagne.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, je reprends l'entretien avec Louis Chavant autour de son roman « Jeu de mort » intitulé « Jeu de mort » et paru aux éditions du Net. Oui, alors nous sommes dans une enquête dont le départ est la découverte dans une cave d'un squelette et finalement les différentes hypothèses ont été pour la plupart éloignées puisque ce squelette n'est pas si ancien que ça. Mais chez Louise, dans ce joli village de Saint-Rome, on apprend des choses. Et en particulier, il y a plusieurs personnages qui gravitent dans ce coin. Et là, ces personnages ont des vies multiples. Et on ne va pas en parler, on ne va pas tout dévoiler, évidemment. Mais il y a des secrets de famille. Et des secrets, on le sait, sont lourds à élucider. Mais d'une certaine manière... Félix va apprendre enfin le nom de ce squelette, de l'homme, du squelette de cet homme. Et il apprend autre chose aussi, c'est que là, il se trouve qu'il y a deux amis, Jean Ben et Georges Labatte. Pas de référence au musée Labitte. Hein.
Ça se ressemble, mais c'est
oui,
coïncidence.
On va dire. Et qui écrivent une publication et qui met la puce à l'oreille, justement, de Félix, une publication intéressante sur l'or de Toulouse. Et il y a un indice qui ne trompe pas. Il manque une page.
Voilà. C'est la page où serait indiqué, décrit l'immeuble dans lequel aurait été caché l'or, en tous les cas une partie de l'or de Toulouse, retrouvé par ce fameux Jean Ben et Georges Labatte.
Voilà, alors, il va consulter plusieurs organismes et il demande l'aide de plusieurs personnages compétents. Donc, qui va-t-il voir d'abord ?
Alors, ce qui va se passer, c'est que il a des pistes, des hypothèses, mais il n'a pas de solution. Il sait, il a identifié le squelette. Par contre, le trésor, on ne sait pas. Il est caché quelque part dans le sud, en dehors des remparts romains de la ville de Toulouse, et quelque part entre ces remparts et le futur canal, le canal du Midi, non, pardon, puisqu'il existait déjà à cette époque-là, dans une propriété, mais l'urbanisation fait que c'est pratiquement, ça reviendrait à chercher une aiguille dans une meule de foin. Quoi.
Quand vous dites que le canal existait déjà, ça signifie quand même que le trésor, l'or de Toulouse, avait déjà été découvert.
Alors oui, bien sûr, oui. L'or de Toulouse, alors, l'or de Toulouse avait été découvert... On n'a que des preuves indirectes qu'il y a des gens qui l'ont. Bon, comme il porte malheur, les Visigoths l'ont découvert, l'ont accumulé, mais ils sont morts, ils ont disparu tragiquement.
Les Romains aussi.
Les Romains avant. Mais après, quand on se déplace vers notre époque, il y a l'histoire aussi, pas de l'or tout court, mais de l'or bleu, les pasteliers, tout ça. Bon, il faut savoir qu'à Cézat, après, il a construit un magnifique hôtel que tous les Toulousains connaissent. Azézad n'a jamais pu vivre dans cet hôtel-là. Alors, c'était un des endroits possibles puisque l'hôtel d'Azézad était construit sur des anciens monuments de l'époque romaine qui étaient des endroits parfaits pour cacher de l'or. Est-ce qu'Azézad a trouvé de l'or là? On ne le sait pas. Mais après tout, pourquoi pas?
Et d'ailleurs, une parenthèse pour nos auditeurs qui s'intéressent à la vie de Toulouse. On dit que ça aurait pu être caché sous Saint-Sernin où il y avait un lac.
Aussi, pas tout à fait, oui. Tout ça, c'est mystérieux, mais si vous voulez, lorsqu'on rapproche de certains événements tragiques, l'or de Toulouse porte malheur, tel là, il y a eu quelqu'un qui a été un personnage important, très riche, et il est mort tragiquement. Oui. Bon, voilà, donc, voilà le genre de conclusion que j'ai tiré, mais je n'ai pas de preuves, bien sûr.
Bien sûr. Bon, évidemment... à un moment donné, quand même, Félix va voir le conservateur du musée de la Résistance. Pourquoi ? Parce qu'il fait un lien entre... Il pense que c'est peut-être des résultats de...
Alors, si vous voulez, c'est la deuxième partie, pas au sens des divisions, hein, mais c'est le deuxième grand mouvement dont Félix a fait la croix. Bon, ben, il connaît le nom de son squelette, mais bon, ben, le trésor, tant pis, il est perdu. Et puis, un jour, il se retrouve au musée de la Résistance, où on lui apprend, bizarrement, une thèse concernant l'hôtel de la Gestapo, que cet hôtel... n'a jamais été, préhendé par les pouvoirs publics pour y installer, par exemple, le musée de la Résistance. Parce qu'il s'agit d'une histoire complexe, il s'agirait d'un bien juif arianisé et spolié. Ceci est un fait vrai, hein, que Félix, en l'occurrence Louis Chavan, a entendu de ses oreilles lors d'une visite de ce musée. Et il n'a pas cru du tout à cette histoire. Donc il s'est dit, je vais enquêter pour savoir quelle est la réalité de cette histoire un peu farfelue.
Voilà. Alors si vous permettez, je lis un extrait de votre ouvrage. Félix et son père attendaient leurs amis dans le hall d'entrée du musée. Le vieil homme à la silhouette voûtée, coiffé d'une casquette en tweed portée à la boutonnière de sa veste en velours marron, un discret ruban rouge. Paul commençait à piaffer d'impatience au bout de quelques secondes seulement. En s'appuyant sur sa canne d'un côté et sur le bras de son fils de l'autre, il se dirigea vers une imposante machine à imprimer exposée sur la droite de l'espace. Après quelques pas, il s'arrêta et sans parler la désigna avant de la toucher du bout de sa canne. Les yeux émerveillés, il tourna la tête vers Félix, puis prononça ces quelques mots. « C'est celle-là. »« Quoi, celle-là ? » ?»« La machine à imprimer des frères Lyon. Mais tu en es sûr ?» Je la revois comme si c'était hier. Cette affirmation le fit sourire car le hier de son père se référait à un événement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voyant que Paul manifestait une certaine fébrilité à la vue de cette imprimante volumineuse et qu'il désirait en parler, Félix lui rappela l'anecdote plusieurs fois racontée par Paul. C'est avec cette imprimante que devaient être tirés les faire-part de ma naissance le jour où la milice ou bien la Gestapo... La Gestapo, précisa Paul, avait organisé une souricière pour piéger tous les hommes et les femmes qui rentraient dans l'atelier des frères Lyon. Paul opinait de la tête en signe d'approbation. À cet instant, leur ami Auguste se joignit à eux et les embrassa. « Alors, Paul, toujours aussi jeune » plaisanta-t-il. « Ah, ça me fait plaisir de te retrouver depuis le temps. » Paul esquissa un large sourire en guise de réponse et pointa son index gauche vers les deux plaques fixées sur le mur, derrière l'engin. Sur la première, on pouvait lire que cette imprimante était utilisée par les frères Lyon dans leur quartier de la rue Croix-Baragnon où ils fabriquaient leurs faux papiers, en particulier pour les Juifs fuyant les nazis et la police de Vichy. Sur la seconde, la légende précisait que c'était dans le même local que furent piégées le 4 février 1944 plusieurs dizaines de personnes, dont un grand nombre de résistants. Tout furent expédiés avec les frères Lyon dans un camp d'extermination. Aucun n'en reviendra vivant. « Et toi, Paul, tu es passé entre les mailles ou étais-tu ? » « Chez moi, Henri, l'aîné des Lyons m'avait prévenu la veille que les faire-part de la naissance de Félix ne seraient pas prêts et qu'il fallait reporter ce travail de quelques jours. J'ai donc repoussé ma visite à la semaine suivante. Quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. » J'ai lu cet extrait, Louis Chavan, pour indiquer à nos auditeurs qu'en plus de cette enquête, ce qui est très intéressant, c'est que votre ouvrage est émané de faits historiques, de faits reliés à la vie de Toulouse à une certaine époque et à la vie de la région, en fait. Et ça aussi, beaucoup beaucoup de gens apprendront des choses qu'ils ignoraient totalement, certainement. Voilà.
Tant mieux, voilà. qui ne sont pas encore tout à fait résolues. Parce que, bon, moi, après avoir découvert certaines choses que j'ai pas pu utiliser telles quelles, parce que, bon, les drames de cette époque sont encore chauds, ils sont pas bouillants.
Et puis il y a des héritiers.
Voilà, et puis il y a des héritiers, hein, de toute façon. Donc j'ai romancé, mais l'histoire après ce que vous voulez
dire... Là, c'est véridique. Et puis il y a la venue des frères Lyon. Les frères Lyon ont existé, vraiment.
Oui, bien sûr, ils ont existé.
De même que vous parlez de l'exécution de Marcel Langer.
Alors voilà, je parle de l'exécution de Marcel Langer, et puis un petit peu, je me venge de cette amnésie, le procureur...
L'Espinasse,
qui a ordonné une véritable exécution de ce terroriste, pas tellement parce qu'il était terroriste, mais parce qu'il était juif et étranger. C'est extraordinaire qu'on retrouve des choses actuellement qui sont du même gabarit. Donc moi, je n'ai pas pu m'empêcher, parce que c'est des choses qui m'horripilent, qu'on puisse mettre à l'index de la société quelqu'un parce qu'il est étranger. Bon, ça, c'est terrible, des choses pareilles. Et donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce que je dis de l'Espinasse, c'est qu'il est quand même sur le tableau d'honneur du palais de justice de Paris, des magistrats héros de la... Oui, il a toujours son nom. On n'a jamais pu le faire effacer. Voilà, c'est quand même une chose extraordinaire. Alors que c'est un procureur, mais il n'a pas été le seul, parce que je crois que des juges...
C'est-à-dire qu'il aurait mieux valu un procès.
Oui, peut-être, il aurait mieux valu un procès,
que,
mais bon...
Que ce soit dit, voilà. Fermement
et
dit.
Et n'empêche que vous allez à Paris, au palais de justice, moi je ne l'ai jamais vu, hein, mais je sais que ça y est, et il y a quelques noms de juges qui sont cités comme des résistants valeureux, et dont l'Espinasse qui a quand même obtenu la tête, mais il l'a payé quand même,
puisqu'ils
se sont vengés.
Alors, voilà. On revient à cet hôtel particulier. Vous dites le château, c'est pas un château, c'est une sorte hôtel d'hôtel particulier.
Oui, c'est un hôtel particulier.
Mais on l'appelait le château.
C'est moi qui l'appelais château, parce que je fais référence au fait que au milieu du 19e, il a été construit au milieu du 19e siècle. Alors je ne sais pas trop par qui, mais c'est pas très important. Et il a été la propriété de plusieurs personnes. Ça, ce sont des choses vraies. Il a été en 1903-1904, par là, au début du XXe siècle, la propriété de la famille Labitte, d'accord ? Et il a été vendu en 1912 à une dame, Jenny Ducoin, qui est apparentée, entre autres, avec la famille du maréchal Foch. Et puis, en 1940, ce château est la propriété d'un dénommé Paul Sarda, qui le vend à une société anonyme qui s'appelle La Cigale, et que j'appelle dans mon roman La Cigale.
Oui, alors vous avez vous aussi, mais donc votre personnage donc va avoir du mal à retrouver les différentes personnes qui ont possédé cet immeuble.
Alors tout à fait, parce que, et ça accrédite un petit peu la thèse du officiel, qui est toujours vrai, hein, l'histoire de la réanisation, spoliation, etc.
Sous prétexte d'arianisation,
voilà.
C'est ça.
En fait, ces manipulations se faisaient sous couvert de création de sociétés anonymes. Les statuts de ces sociétés se faisaient dans le secret d'études notariales, et c'est le secret.
Là, c'était top secret.
Personne ne peut y mettre. On ne peut jamais savoir ce que c'est. Et donc, j'étais coincé. Et la chance que j'ai eue, c'est que à ce moment-là, j'ai, par mes fonctions à l'université, j'étais en contact avec M. Potier, qui était le nouveau directeur des archives départementales, et à qui j'avais dit, j'aimerais savoir quels étaient les membres de cette société, parce que c'est impossible à savoir, et ça apporterait beaucoup de solutions, de clés à ce que je recherche. Et M. Potier a pris le nom, SEIGA, ça voulait dire Société immobilière de la Grande Allée, tout simplement. Et peu de temps après, il m'envoie une lettre que j'ai, qui est signée, dans laquelle il me dit on a trouvé un dossier dans les dommages de guerre. Et donc, là, j'ai su quelle était la composition de cette société, qui en était le réel propriétaire, l'actionnaire principal, etc., etc. Alors je m'en sers un petit peu dans le roman, j'en fais une histoire gentille. La oui. réalité...
elle l'est moins.
Elle est quand même beaucoup moins,
ouais. Oui. Mais alors, vous êtes remonté avant justement la possession de cet hôtel particulier par cette société, ouais. Vous êtes remonté encore plus haut.
Eh bien oui, parce que moi, ce Sarda, je voulais savoir qui c'était ce bonhomme-là. Mmh. Et c'est par hasard, là aussi, que j'ai pu savoir, grâce à Internet, il ne faut pas le dire, il y a les pires choses sur Internet.
Ah, quand même.
Et en tapant Sarda, je suis tombé sur l'histoire d'un Paul Sarda. Mais ce n'était pas le mien, sauf que c'était quand même son père. Voilà, qui était l'homme qui a un ingénieur de centrale qui, à la fin du 19e siècle, s'est expatrié en tant qu'ingénieur de centrale au Japon et qui a construit la ville de Tokyo, dont il était propriétaire
richissime,
de la moitié.
Voilà,
richissime. Il a une réussite considérable au Japon.
Oui, voilà. Et c'est là où on fait la connaissance d'un sacré personnage, une femme,
voilà.
Eugénie ou génie. Qui était très moderne, disons, pour l'époque, très libérée, et avec un parcours assez extraordinaire, parce qu'elle épouse étudiante, je crois qu'elle était étudiante, non, au départ ?
Alors, elle était étudiante, bien sûr, mais elle était surtout dans cette bourgeoisie intellectuelle parisienne, dans laquelle il y avait deux grandes familles originaires du Piémont pyrénéen, les Ducoin, d'une part, et la famille du maréchal Foch. Et tout ça, ça tournait autour des écoles polytechniques, la jeunesse, je veux dire.
Hein. Oui,
et
oui.
Donc, elle fréquentait ces gens-là, et en particulier, une de ses cousines était mariée avec le frère du maréchal Foch. Si vous voulez...
Par relation,
elle se dit, bon, ben, elle va peut-être se marier, mais non, elle ne se mariera pas avec un jeune, elle va se marier comme
avec
elle
fréquente, un professeur.
Avec un professeur.
Alors, voilà. Je vous lis la description que vous en faites. D'après mes aïeux, Génie était un peu le signe noir de la famille. Disons qu'elle était avant l'heure une garçonne. D'ailleurs, il y a un portrait d'elle où elle a vraiment la coiffure de la garçonne, ouais. Les cheveux raides, courts, ouais, la frange, etc. Disons qu'elle était avant l'heure une garçonne. Elle était cultivée malgré son jeune âge, curieuse d'art et de littérature. C'est un esprit libre, une jeune femme rayonnante par sa beauté et son intelligence, mais un peu à la marge de cette jeunesse dorée et rangée qu'elle fréquentait et dont elle était issue. Effectivement, elle aurait dû ou pu épouser un jeune ingénieur. Elle a bien épousé un polytechnicien, mais de 30 ans son aîné. Le professeur Escati, mathématicien de renom qui professait à Polytechnique et également à l'école centrale. Elle avait à peine 17 ans lorsqu'ils se sont connus et épousés, donc. Mais elle n'en est pas restée là, la coquine. Elle est partie avec un jeune japonais. Elle était très attirée par la culture japonaise pour différentes raisons. Et elle est partie avec un étudiant japonais. Et à l'époque, les étudiants étrangers appartenaient... quand ils venaient en France, ça voulait dire qu'ils appartenaient à des familles riches.
Oui, tout à fait.
Et là, il appartenait à la famille impériale.
Certainement.
Voilà.
Certainement.
Donc, elle va au Japon. Et puis, de fil en aiguille, leur aventure tourne court. Et elle va retrouver un certain Monsieur Sarda qui va accepter et reconnaître l'enfant qu'elle a de ce jeune étudiant japonais de cette famille impériale. Voilà. Et alors, c'est très drôle, parce que là, pour le coup, nous allons dans le Piémont pyrénéen.
Voilà. Alors, ça, c'est le roman, quand même.
Mais oui.
La réalité est quand même un petit peu différente. Elle n'est pas tout à fait tranchée. Mais donc, cette personne a certainement, essayé de... À cette époque-là, le japonisme était une mode. Hein. On était, les Occidentaux étaient très attirés par l'Orient, et en particulier par le Japon. D'abord, l'histoire de l'habit.
Et les peintres.
C'est ça.
Et les peintres. Voilà,
et des peintres, oui. Van Gogh, tout ça.
Oui.
Bon.
Et
donc, elle va jouer un rôle important, certainement. En tous les cas, moi, c'est le rôle que je lui attribue dans le roman, auprès de ce Paul Sarda senior. Et je pense que c'est, comme c'est souvent le cas, c'est parce que c'est une femme jeune, très intelligente, qu'elle va faciliter les actions de son compagnon, Paul Sarda senior, de lui permettre d'avoir ses entrées auprès de l'administration japonaise, de pouvoir faire tout ce qu'a fait Paul Sarda senior et de bâtir une fortune considérable,
hein, considérable. Dont elle héritera.
Dont elle héritera. Dont elle héritera, ouais. Et elle va tout perdre parce que...
Il y a le crash.
Il y a eu d'abord le fameux tremblement de terre qui a détruit Yokohama et dont l'empire immobilier est tout balayé. Les mines d'or et d'argent qui avaient été la propriété de Paul Sarda, dont elle avait hérité, elle les avait transformées en actions. Il y a eu le crash
27-29.
Ils ont tout perdu, là.
Mais oui,
sauf une chose que personne ne savait, c'est ce château de la Grande Allée. Alors, pourquoi elle avait acheté ce château, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle avait acheté ce château. Mais moi, j'ai les actes comme quoi elle les avait achetés.
Oui.
Alors, est-ce qu'elle avait une information comme quoi il y avait l'or de Toulouse qui était caché, là? Je ne sais pas.
Oui, et qui sera vendu, donc, en 1940, à la fameuse société dont vous parlez.
Voilà.
Alors, elle, je pense... mais on n'en dira pas davantage, que Félix a découvert un secret grâce à des LQ.
Grâce à des... Oui, voilà, vous l'avez prononcé, grâce à des...
Comment vous le prononcez-vous? LQ.
Oui, mais peut-être, je suis pas... Oui, c'est en japonais, là, vous le prononcez, mais moi, je suis très mauvais là-dessus.
Hein. Mais alors... moi, je ne suis pas une spécialiste en la matière.
Voilà. Donc, si vous voulez, c'était une façon d'arriver vers une solution. Et effectivement, j'ai imaginé, disons, la présence de ces deux vases un peu particuliers qui étaient des objets que les touristes de l'époque se faisaient faire ou acheter facilement ou qui faisaient revenir du Japon. Et sur chacun de ces vases, dont un sera trouvé chez Louise et l'autre chez les descendants de Jenny Dicouin, et que va rassembler
les
Félix,
deux,
dans lequel on va avoir la solution
de l'énigme. Mais là, j'en en dirai plus, mais malheureusement, il va falloir que nous nous arrêtions. Parallèlement, Félix Cheval ne faisait pas que des enquêtes. Il était un inventeur et découvreur même, découvreur d'un champignon extrêmement toxique. Alors là, écoutez, là j'ai vraiment ri. Et bien c'est bien de terminer une histoire, une sorte de roman policier quand même, par le rire. Un champignon extrêmement toxique quand on le fume. C'est un moyen peut-être, en effet, comme certains virus, d'éliminer une partie de la population, de la démographie, de la population mondiale. Et donc, on n'en dira pas plus, parce que peut-être que l'or de Toulouse va parler.
Voilà.
Bon, en tout cas, un grand merci, Louis Chavant. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de cet ouvrage intitulé « Jeu de mort » paru aux éditions du Net. C'est donc une recherche... disons policière, mais c'est également rempli d'histoires concernant notre région et qui présente beaucoup d'intérêt. Un grand merci encore.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.